Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jade.
Bienvenue sur Radio Campus 90.8. Nous sommes en direct à l'occasion de la fête du village de santé, les 8 ans, un centre de santé communautaire au 6 bis rue Denis Papin à Échirol. Je m'appelle Jade, je suis en stage d'éducatrice spécialisée sur le volet social au sein du centre de santé. Et voici Besma, ma collègue, qui est usagère au sein du centre de santé.
Merci Jade. Nous venons donc de regarder un documentaire « Un racisme à peine voilé » réalisé en 2004 par Jérôme Host. Ce documentaire a aujourd'hui 20 ans. À travers ce film, différentes thématiques seront donc abordées cette heure. Donc, tout d'abord, l'exclusion à l'école et dans le milieu professionnel. Ensuite, le rôle des médias et la place qu'ils ont laissée aux personnes concernées et les effets de la discrimination sur la santé.
Pour échanger sur ces thématiques, nous recevons ce soir dans notre plateau des patients, habitants du quartier et professionnels qui viendront partager et échanger sur ces thématiques et ainsi donner leur point de vue. Tout de suite, l'extrait numéro 1.
Contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique.
Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy.
Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement.
Nous venons d'écouter un extrait du documentaire et nous accueillons maintenant le réalisateur Jérôme Host. Bienvenue Jérôme. Jérôme, tu es l'un des fondateurs de la case de santé de Toulouse qui a été créée en 2006, le premier centre communautaire en France.
Bonsoir Jérôme, merci pour ta venue. Comment présenterais-tu ce film aux usagères et usagers, auteurs, auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas vu ?
Déjà bonsoir et merci de m'avoir invité et merci au village de santé d'avoir courageusement programmé le film, surtout dans le contexte actuel. Comment je présenterai le film ? C'est un film qui avait tout simplement l'idée de départ, c'était donner la parole à des filles qu'on n'avait pas entendues pendant tout ce débat-là à cette époque. Moi, j'étais à ce moment-là j'étais en fin de carrière à l'éducation nationale. J'étais surveillant, j'étais étudiant et donc ce qu'on appelait les surveillants, on appelle ça maintenant les aides éducateurs, je crois. Oui. Voilà. Et donc moi, j'étais dans un établissement, un lycée professionnel où il y avait beaucoup de filles voilées. Enfin, beaucoup, il y avait un certain nombre de filles voilées. C'était un lycée professionnel qui faisait secrétariat comptabilité, donc c'était assez féminin. Et le débat était en train de monter dans la presse et moi, surveillant, en bon surveillant de l'éducation nationale, je passais du temps avec les élèves dont j'avais la charge pour discuter. Et notamment, j'ai commencé à alerter un certain nombre de ces jeunes filles et de leur dire vous avez compris ce qui se passe, ils sont en train de parler de vous. Et oui, ils risquent de vous empêcher d'aller à l'école, tout ça. Donc on a engagé le débat. Et parallèlement, j'étais aussi engagé dans une association de vidéastes. On avait déjà fait quelques films. Et donc rapidement, en discutant avec les collègues, ils m'ont dit lance-toi, peut-être essaye de recueillir des témoignages. Donc l'idée au départ, elle était partie comme ça, hein, tout simplement de recueillir la parole de ces jeunes filles qu'on n'entendait pas dans les médias. On entendait ce qu'on a vu dans le film, c'est-à-dire un grand brouhaha de gens qui parlaient souvent d'un sujet qu'ils connaissaient mal, et surtout, on ne voyait pas ces jeunes filles. Donc l'idée de départ, elle était aussi simple que ça. Et puis, rapidement, se sont constitués des collectifs un peu partout en France. Et il y a un appel qui a été lancé du collectif Une école pour tous et toutes. Donc c'est aussi un film d'une personne, enfin de moi, qui était aussi engagée dans ce collectif. Donc c'est aussi important de le dire. C'est-à-dire, c'est pas un, un film journalistique, c'est un film engagé. C'est un film un peu qui, on pourrait dire, qui se situe un peu dans une espèce de tradition de film d'intervention. Et donc, j'avais décidé, moi, d'assumer de prendre un parti. Le parti constituait à prendre le parti de ces jeunes filles, de leur donner la parole. Et on m'a souvent reproché, en tout cas les détracteurs du film m'ont souvent reproché de ne pas avoir donné la parole dans le film aux adversaires de ces jeunes filles, ou en tout cas un autre discours. Et moi, j'ai toujours estimé que ces gens-là, on les avait assez entendus. Enfin, ils avaient largement la parole dans tous les médias et les grands médias, et que donner une heure vingt de temps de parole dans tout ce brouhaha à ces jeunes filles, c'était pas nécessaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais été contacté à peu près un an et demi après la sortie du film par une boîte de production. Enfin, c'est plutôt une réalisatrice un peu connue qui avait vu le film, que j'avais croisé, qui m'avait dit « moi, je peux te brancher avec mon producteur et tout ». Et donc, pour que le film puisse passer en salle, etc., et une diffusion télé aussi. Mais elle m'avait imposé, la productrice, de compléter le film par des paroles contradictoires, quoi. Ce qu'on avait décidé de refuser, parce que moi, j'avais plus envie de toucher au film, et puis j'avais pas du tout envie d'aller revoir et surtout voir et interviewer des personnes pour entendre toutes les bêtises qu'on a pu entendre dans le film.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de voir ce film 20 ans plus tard ?
Je l'ai revu entre temps, depuis qu'il est sorti. Mais là, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Moi, ce qui m'a frappé en le revoyant là, c'est surtout le zapping qu'on voit au début, là, les images que j'ai sélectionnées de ce débat assourdissant qui a duré plusieurs mois dans les médias français. Et en revoyant ça, je me suis dit, mais bon sang, c'est pire en fait aujourd'hui, quoi. Ça veut dire que ce qu'on voit là, qui paraissait choquant, qui n'a pas choqué tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui ont pu être choqués par les propos de certains et certaines dans ces grands médias. L'impression qu'aujourd'hui, c'est totalement banalisé et que ce qu'on a entendu là, maintenant, on peut l'entendre quasiment tous les jours dans des médias type CNews, BFM et autres, quoi. Donc ça, c'est ce qui m'a frappé en le revoyant. Et puis après, le reste, c'est un peu de l'émotion, quoi, de revoir des gens dont certains ont disparu, notamment, mais de revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, avec qui j'ai milité, avec qui ont courageusement, pour certaines d'entre elles, pris la parole. C'était pas facile. Je pense à Fatima qui a témoigné pour la première fois de son exclusion, qui en a parlé assez longuement comme elle l'a fait là, et encore, j'ai pas tout mis évidemment dans le film. Elle, je me souviens l'avoir revue quelques mois après la sortie du film et qui m'a dit vraiment, ça m'a fait l'effet d'une psychanalyse, cette interview, quoi, parce que c'était la première fois que je revenais là-dessus. Donc de revoir tous ces gens-là, c'est un peu d'émotion quand même.
Et du coup, tu as encore des nouvelles de ces personnes justement que tu as pu rencontrer à cette époque ?
Bon, pas beaucoup, hein. Il y a 20 ans qui sont passés. Moi, c'est vrai que j'ai pris d'autres directions aussi. Je fais plus de vidéos aujourd'hui. Moi, à l'époque, j'étais basé à Strasbourg. Donc, tout ce qui se passe à Strasbourg, là, le collectif qu'on voit, là, ce qu'ils appelaient les manifestations de discussion. Donc, moi, j'étais dans ce collectif-là à l'époque-là. Donc, je connaissais bien ces filles-là. Les nouvelles que j'ai, c'est les nouvelles de Zahra Ali, la jeune fille qu'on voit beaucoup intervenir dans le film, qui est toute jeune à cette époque-là, qui n'a même pas 18 ans, et qui, elle, est devenue une chercheuse reconnue en sciences sociales et qui a un poste de chercheur dans une université américaine. Ce qui nous fait dire quand même, parce qu'il y a sa situation à elle, mais il y en a eu beaucoup d'autres à cette époque-là, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, des femmes, ou d'ailleurs des hommes aussi, racisés, comme on dit aujourd'hui, ou perçus comme musulmans, qui sont qualifiés, voire ultra-qualifiés, et qui s'expatrient, parce que ils n'ont aucune chance de faire carrière en France, malheureusement. avec leur voile, mais aussi parce qu'ils sont trop typés et qu'en France, encore aujourd'hui, c'est difficile de faire carrière dans des postes à responsabilité ou dans des postes... Donc voilà, donc elle, c'est, je trouve que c'est assez symptomatique, son parcours. Mais en tout cas, je suis... Enfin, on est tous et toutes qui la connaissons super fiers de son parcours, quoi, et de l'avoir là-bas aujourd'hui, à cette place-là.
Ouais. Et du coup, quand le film est sorti, tu te souviens où est-ce qu'il a été diffusé, comment est-ce qu'il a été reçu de part et d'autre, s'était passé comment?
Alors non, nous on était vraiment, c'est un film qui s'est fait avec 3 francs 6 sous et avec des bouts de ficelle. Bon, peut-être que c'est pas des choses que peut-être que vous percevez, mais bon, la qualité elle est quand même médiocre par rapport à ce qui est fait aujourd'hui avec la HD et tout ça. Mais et on était une petite association, on n'avait aucun moyen de diffusion, on n'avait pas, il n'y avait pas de contrat de distribution, tout ça. Hein. C'est un film qui s'est fait avec quelques centaines d'euros. Et moi, à l'époque, j'étais au chômage, donc voilà, j'ai fait ça avec mon argent de chômeur. J'ai pris le train, j'ai filmé, quoi. Mais par contre, on s'est plutôt bien débrouillé. Et donc, essentiellement, on s'est appuyé sur des diffusions publiques dans des lieux, dans des MJC, dans des centres culturels ou cultuels, d'ailleurs. Et le film a été énormément diffusé, en fait. Hein, 2004-2005, moi, j'ai dû, moi, personnellement, me déplacer à, je pense, entre 100 et 150 diffusions publiques. Donc, je partais parfois sur une semaine ou deux dans plusieurs villes. Je suis venu ici, à Grenoble. Hein, c'est d'ailleurs toi qui m'as rappelé, parce que je ne me souvenais plus où j'étais venu, mais je suis venu. Mais ouais, donc, il a eu quand même une diffusion importante. Beaucoup de DVD distribués. Puis après, il y a eu l'arrivée des plateformes de diffusion, type YouTube ou autre. Et donc, bon, pour ceux qui connaissent un peu le film, il y a plein de gens qui ont posté le film sans mon autorisation, mais il n'y a pas de problème. Hein. Et du coup, il a été aussi beaucoup vu sur les plateformes. Donc, il a eu une bonne diffusion. Ouais. Et essentiellement, voilà, ça correspondait aussi à une époque où il y avait beaucoup, il y avait l'émergence d'associations musulmanes de type à l'époque c'était PSM, alors c'est PSM, j'ai oublié ce que veut dire l'acronyme, mais voilà, une tendance dans la mouvance musulmane, vraiment dans l'engagement citoyen, en gros, avec une volonté en tant que musulman d'intervenir dans la cité, dans la société. Et donc l'émergence de beaucoup d'associations, et il y a, voilà, j'ai beaucoup diffusé dans des associations communautaires musulmanes.
Eh ben, merci à toi, Jérôme. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir apporté ces précisions. Donc maintenant, on va écouter un deuxième extrait du film qui est en lien avec l'exclusion vis-à-vis de l'école.
C'est inacceptable.
Vous allez lui demander de le retirer?
Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les autres sont témoins. Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterai Anan aujourd'hui comme ça?
J'ai vu le proviseur en bas.
Anan, c'est non.
Il m'a dit oui.
Anan, on ne discute pas. C'est
je suis
non.
Désolée, madame.
Non,
je suis
et non.
Et puis, ce que j'ai ressenti surtout, c'est une humiliation, vraiment. Parce que la façon dont on me parlait, la façon dont on parlait de mon foulard, c'était vraiment quelque chose qui n'appartenait pas à la France. Enfin, je me suis sentie finalement, j'ai eu ce sentiment d'aliénation en disant oh, je suis française mais je suis peut-être pas tout à fait française, parce qu'on me l'a fait ressentir.
Je faisais plus partie, j'étais plus une élève, j'étais plus une lycéenne, j'étais plus rien en fait quand je suis sortie, j'étais une exclue.
Je veux dire qu'on a placé, qu'on a mis en marge de la société des enfants, on leur imputait de leurs droits fondamentaux et ça ne gêne personne parce qu'on a placé le débat de manière tellement abstraite qu'on a le sentiment que de combat des foulards et non pas des gens derrière.
Les histoires de vie peuvent toucher nos cœurs. Écoutons maintenant ces voix qui partagent leur lutte avec Farah et Myriam. Bonsoir. Bonsoir Farah.
Bonsoir.
Tu es étudiante en master. Tu pourras te présenter un petit peu si tu veux bien.
C'est ça. Alors moi je suis étudiante en master 1 en master 1 MEF. Donc c'est le master qui mène au concours de professeur à des écoles. Donc moi, j'ai décidé de poursuivre ma licence de sciences d'éducation dans un institut confessionnel. C'est un institut privé catholique. Je me suis dirigée vers le privé parce que je savais je le savais d'avance en fait que c'était mort pour moi de pouvoir faire mes stages avec mon voile dans le public. Donc je me suis dirigée vers cet établissement en pensant que lors de mes stages, il n'y allait avoir aucun problème puisqu'ils sont affiliés avec des écoles primaires catholiques au sein de l'agglomération de Grenoble. Ce fut une surprise quand j'ai découvert que ce n'était pas possible en fait. Mes responsables de formation m'ont expliqué que les profs dans le privé devaient faire preuve de neutralité aussi. Je me suis un petit peu battue avec mes responsables de formation pendant quelques semaines au début septembre. On a réussi à trouver une solution. Ils sont très très bienveillants. Hein. C'était pas eux le problème parce que eux ils ont essayé de faire en sorte de me trouver une solution très rapidement. Ils m'ont accompagnée, etc. Mais du coup, moi la seule solution que j'ai trouvée actuellement. C'est de travailler avec des écoles privées musulmanes. Et je rappelle qu'il n'y en a que 7 en France. Hors contrat, il y en a beaucoup plus, hein, mais sous contrat, il n'y en a que 7 en France. Donc, du coup, du premier degré et second degré confondus. Sachant que moi, je suis étudiante dans le premier degré. Pour vous dire, il doit y en avoir 3-4. Et voilà, du coup, j'ai dû un petit peu combattre, un petit peu envoyer des mails un petit peu partout dans toute la France, à Paris, Lyon, Marseille, pour pouvoir trouver un stage. Et actuellement, j'ai réussi à trouver une solution qui n'est pas encore tout à fait stable, mais voilà un petit peu mon parcours.
Merci pour ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le documentaire qu'on vient de voir ?
Alors moi, c'est le témoignage de Fatima, il me semble, elle s'appelle. Où elle parle de solitude et la violence de son exclusion. En fait, j'ai trouvé que, personnellement, j'ai trouvé que ça ne change pas en fait. On se sent toujours aussi seul et c'est toujours aussi violent en fait, parce que on peut toujours soutenir, on peut toujours avoir le soutien des autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui change. Parce que les lois sont toujours aussi strictes, même si on essaye de passer par des petits coins. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis creusé le cerveau, j'ai essayé de trouver une solution, je suis passée par le privé. Mais il n'y a pas tout le monde qui a malheureusement cette occasion-là, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez onéreux. Et ouais, du coup, c'est ce sentiment de solitude que je partage toujours autant avec elle 20 ans plus tard.
Du coup, je rebondis parce que du coup, ton expérience, elle ressemble beaucoup à la mienne. Comme j'ai pu le dire, je suis actuellement en école de travail social et du coup, j'ai pareil des stages à faire dans les différentes années de ma formation. Et du coup, moi aussi, j'ai eu des problèmes à trouver des endroits qui m'acceptent avec mon voile parce que du coup, c'était pas possible pour moi de l'enlever. Pour moi, c'est enlever une part de moi-même, d'enlever mon identité, et on est censé m'accepter comme je suis. Et en plus, en tant que futur travailleur social, il était important pour moi. On accompagne des personnes de différents horizons, différentes origines, différentes religions, et du coup, il était important pour moi que les travailleurs sociaux soient aussi de tout horizon confondu. Et du coup, voilà, je suis reconnaissante de faire mon stage au village de santé qui m'accepte comme je suis. Voilà.
Donc, Myriam, merci d'être avec nous ce soir. Donc, toi aussi, je pense que tu avais des choses à dire, mais plutôt sur le volet du travail. Si tu veux bien nous expliquer ton parcours.
Eh bien, bonsoir. Merci de me donner la parole parce que c'est un sujet qui me touche énormément. En voyant ce reportage, ça a eu énormément de répercussions au plus profond. Donc, moi, je m'appelle Myriam. Je suis infirmière libérale sur Échirol, mais je n'ai pas été tout le temps infirmière. Donc, après mon baccalauréat, je pensais pouvoir faire des études supérieures avec mon foulard. Mais malheureusement, ce n'était pas toutes les structures qui le permettaient. J'ai décidé de fonder ma famille et puis un jour, Myriam s'est réveillée un matin, pas bien, dans son lit, pas épanouie. Et puis je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai décidé de reprendre mes études et de faire ce que j'ai toujours voulu, donc infirmière avec donc mes études avec mes trois enfants. Mes études se sont très bien passées, mais j'ai été tout le temps avec cette crainte qu'on me mette des barrières à cause de mon foulard. Donc j'ai décidé de me cacher, entre guillemets. Je portais un bonnet parce que j'avais peur d'être jugée, peur d'être mal notée, peur que mes stages se passent mal.
Avoir des répercussions par rapport à tes cours.
Tout à fait, donc pour mes études et ne pas pouvoir accomplir mon rêve. J'ai obtenu mon diplôme et tout de suite après, je suis allée travailler au CHU. Et là, encore une fois, donc, foulard pas permis. Donc j'ai décidé de me cacher. Ça a duré pendant un an où je venais avec un bonnet. Et puis, arrivé le moment où on a forcément envie de sortir avec ses collègues, partager des moments hors CHU. Et là, je suis sortie avec mon foulard. Et malheureusement, certains de mes collègues ont changé de comportement, malgré le fait que j'étais totalement épanouie, parce que j'adore ce que je fais. Le matin, aller au travail, j'avais pas du tout la boule au ventre, bien au contraire. Dès que certaines personnes ont su que je le portais, j'ai commencé à me sentir pas très bien. Et ça a été l'une des raisons du coup qui m'ont poussée à quitter le CHU et à aller m'installer en libéral.
Et du coup, maintenant que tu es en libéral, ça se passe comment ?
Alors, je suis très épanouie en tant que femme française d'origine maghrébine, de confession musulmane. Je peux porter mon foulard. Ça se passe très bien avec mes patients. Quand on a une nouvelle prise en charge, parfois, le regard parle, certaines réflexions. Mais quand ils apprennent à me connaître et qu'ils sentent que j'aime ce que je fais et que je fais un maximum pour apporter un soin de qualité, eh bien, ils me disent, mais notre regard a changé. Et donc épanouie, je fais du sport, je voyage, je sors avec des copines, je pars en vacances avec des copines, maman épanouie, d'ailleurs, mes enfants le ressentent très bien. Et voilà, donc j'ai pu accomplir mon rêve, ça m'a demandé quelques concessions, j'ai dû le retirer à certains moments. Mais aujourd'hui, Myriam se porte bien. C'est plus la Myriam qui était dans son lit, qui n'arrivait plus à se lever. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire à ces générations, à cette nouvelle génération, faites des études, accomplissez vos rêves et soyez bien dans votre peau.
Merci Myriam. Voilà. Merci, c'est un très beau témoignage. Merci à vous mesdames.
Merci.
Merci pour ce témoignage. Maintenant, nous allons regarder un extrait sur la thématique des médias et de la place qu'ils laissent aux personnes concernées. Merci.
Là, on vous sent effectivement un petit peu dans une décision de provocation.
Un certain nombre de pratiques, de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile.
Ce n'est pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes.
À l'extérieur, il y a des millions de femmes qui veulent retirer le voile. Il y a des millions de femmes, la dernière, Shirin Ebadi, le prix Nobel de la paix en Iran.
On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie, on nous parlait des trucs, mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas, on nous montrait pas nous, on nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement... un écrivain iranien parlait de l'Iran, ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je suis citoyenne, je suis française.
Donc, pour aborder la thématique des médias, donc Majouba nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir Majouba.
Bonsoir Majouba. Merci d'être parmi nous ce soir. Si tu veux bien, tu peux te présenter un petit peu.
Je m'appelle Majouba, je suis patiente au village de santé. Et voilà.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans le documentaire qu'on vient de voir ?
Alors moi, c'est l'énorme violence envers ces jeunes filles qui veulent juste aller à l'école pour s'instruire.
Voilà. Qu'on veut invisibiliser, du coup.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça fait de vivre dans un pays où les médias et les politiques parlent de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, sans jamais donner la parole aux personnes concernées?
Alors, vivre dans un pays où les médias et les politiques parlent de toi, sans te donner la parole, c'est se sentir invisible. C'est frustrant, car on parle de ce que tu vis sans te laisser dire ta propre vérité. Ça renforce les préjugés et crée une distance entre ceux qui jugent et ceux qui sont jugés.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, moi, j'ai ressenti un peu la même chose. C'est ce qui m'a frappée, parce que bon, je l'ai regardé plusieurs fois. Ce qui m'a frappée à un moment donné, c'est de voir que en fait, la parole est donnée à beaucoup de personnes, mais pas aux personnes concernées.
Voilà.
Et j'ai trouvé ça tellement horrible de mettre les personnes concernées en fait, à l'écart et qu'elles ne puissent pas, elles, parler à juste titre de comment elles vivent le fait qu'elles, portent, qu'elles se couvrent la tête et qu'elles aillent à l'école.
Non, elles vont simplement parler de leur violence et de ce qui se passait et pas le fond du...
Ouais, tout à fait.
Du problème.
Du coup, Majouba, en fait, le film a 20 ans. Donc, il est sorti en 2004. Nous, nos enfants, ils étaient tout jeunes. On les accompagnait à l'école élémentaire. Hein. En 2004, moi, je me souviens, c'était l'année où on nous courait après dans le couloir parce qu'il n'y avait pas assez de parents accompagnateurs. Hein, vite, il faut nous accompagner. Et puis, bah, après, dès que très, très vite, quand les débats ont... suite au débat, il y a la loi qui est sortie... Bah, du coup, on était des pestiférés. Donc voilà, ça a été très compliqué. Mais on est resté debout. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, 20 ans après, tu penses qu'on en est où, en fait, par rapport au film qu'on vient de voir?
Alors, en 20 ans, certaines choses ont évolué. Il y a plus de discussions sur le racisme et l'islamophobie, mais les lois sur la laïcité restent strictes. Et les tensions sur les ports du voile sont toujours là. Pour l'avenir, ça dépendra si on continue à renforcer ces tensions ou si on trouve des moyens de mieux inclure tout le monde dans le débat.
Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, ça me fait écho à la place des médias, comment on perçoit les médias. 2004, déjà, je commençais à me poser des questions. J'étais jeune quand même. Hein. 2004, je commençais à me poser des questions. Et c'est vrai, dans les années qu'on suivait, en fait, je me suis rendu compte que...
Ben, 2024, on n'écoute plus les médias.
Voilà. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. On ne les écoute plus. On se sent quand même un peu trahi, mis à l'écart. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est invisible. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Bah, qui gêne quand même, hein, parce qu'on n'est pas des citoyens de seconde zone, en fait. Non. On est des citoyens à part entière. Non, on a au même droit que n'importe qui. Sûr. Et se sentir comme ça à l'écart, d'abord par les médias et par rapport à des personnalités publiques qui se permettent de parler à notre place, en fait, on n'a plus confiance, quoi. On commence à ne plus avoir confiance et on essaye d'aller vers d'autres canaux pour... Canal, pardon, je ne sais même plus comment ça se dit, canal, c'est pas grave.
C'est tout à fait ça.
Pour trouver la bonne information. Mm. Voilà. Eh bien, Majouba, je te remercie.
Je t'en prie.
Merci
infiniment.
Écoutons maintenant un court extrait de la chanson Résiste de France Gall, sortie en 1981. C'est une chanson intemporelle, c'est un hymne à la résistance individuelle face aux pressions et aux injustices sociales.
Tu réalises que la vie n'est pas là, que le
pour la quatrième partie, nous allons aborder des questions autour de la clinique communautaire.
Bonsoir à nos quatre invités. Alexandre, médecin généraliste au village de santé. Aurélie, coordinatrice du réseau des centres de santé communautaire. Et Ouméani, usagère du village de santé. Donc Alexandre, d'après toi, d'après ton expérience en tant que médecin au village de santé, et peut-on être malade de discrimination ?
Bonsoir, merci pour nous accueillir sur votre plateau. Pour faire une réponse courte à cette question complexe, il y a une citation d'une intellectuelle américaine qui dit que le racisme, c'est l'exposition d'une certaine population à un risque de mort prématurée. Je trouve que quand on dit ça, on a dit déjà pas mal de choses. Mais pour développer un petit peu, oui, effectivement, les discriminations, on constate, c'est des facteurs de risque de maladie, d'être en mauvaise santé. Moi, de mon point de vue de médecin, je le vois par deux prismes, par le prisme interne au système de santé. Il y a par exemple une étude qui est sortie là en début d'année, faite par un médecin des urgences de Montpellier, Xavier Bobia, qui a essayé de voir comment nos préjugés pouvaient impacter la façon dont on percevait la gravité de la maladie des patients qui se présentaient à nous. Pour faire ça, il a fait une étude où il présentait un cas clinique, une histoire clinique, une personne qui se présente aux urgences avec une douleur dans la poitrine. Il donne plein de détails, mais volontairement, il fait en sorte que l'histoire soit assez floue pour qu'on ne puisse pas dire juste comme ça sur l'histoire si c'est très grave ou si au contraire un infarctus, quelque chose comme ça, ou au contraire quelque chose de pas très grave, une douleur musculaire qui inquiète le patient. Et donc il présente cette histoire clinique à plusieurs soignants. Il a fait ça sur 1500 soignants en France et dans d'autres pays francophones. Et il associe à lui et son équipe, ils associent à cette histoire une photo du patient en question. Et donc ça peut être cette photo, un peu au hasard, ils mettent soit un homme, soit une femme. Et à chaque fois, ils font en sorte que la personne puisse être soit blanche, soit noire, soit nord-africaine, soit asiatique. Et donc il dit aux gens, voilà, regardez ce cas clinique, je vous présente ce cas clinique, il y a cette photo qui accompagne le cas clinique. D'après vous, est-ce que c'est grave ce qui se passe ? Et donc son étude, elle montre que quand on montre le cas clinique avec une photo d'un homme blanc, les gens ont plutôt tendance à dire que oui, c'est sans doute très grave. Si on montre le même cas clinique avec la photo d'une personne noire, ils vont dire que c'est moins grave. Et le pire, c'est si on présente ce cas clinique, donc c'est le même à chaque fois, mais avec la photo d'une femme noire, les soignants ont plutôt tendance à dire que c'est pas grave. Donc on voit qu'il y a vraiment un racisme systémique dans le système de santé, mais qui n'est pas étonnant, parce que les soignants ne sont pas extérieurs à la société, ils trempent dans la société qui elle-même est malheureusement fortement discriminatoire et raciste.
Et du coup, dans un centre de santé communautaire, comment est-ce qu'on accompagne le vécu discriminatoire des patients ?
Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on fait, nous, ici. Donc, on essaie déjà de repérer ce genre de situation-là où le système de soins peut être discriminatoire. Mais comme je disais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des déterminants sociaux de la santé. On sait aujourd'hui que la plupart des maladies, finalement, ce n'est pas tellement la médecine qui va aider les gens, c'est le service public, le social. En gros, c'est les déterminants sociaux de la santé. Le fait d'avoir accès à un logement, à un travail, à une alimentation, à une activité physique qui va faire que les gens peuvent être en bonne santé. Et du coup, il y a les discriminations au sein du système de santé qui viennent impacter la santé, mais il y a également toutes les discriminations au sein de la société qui, par ricochet, viennent affecter la santé. Un exemple très simple, par exemple, c'est une femme qui porte le voile qui va venir nous dire « j'aimerais me remettre au sport ». On l'examine, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'elle fasse du sport. Médicalement, on lui fait un certificat d'aptitude à faire du sport. Un mois, deux mois plus tard, on la revend, on dit « alors, comment ça se passe ?» Elle nous dit « en fait, je n'ai pas trouvé de salle de sport qui m'accepte avec mon voile. » Et du coup, je ne me suis pas mis à faire du sport. Donc on voit qu'il va y avoir plein de choses comme ça. Ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, malheureusement. Donc nous, dans notre centre de santé, ce qu'on a mis en place, entre autres choses, c'est que tous les professionnels, que ce soit les médecins, mais pas seulement, parce que toutes les personnes du centre de santé peuvent recevoir des paroles de discrimination de la part des usagers du centre, et on a cette oreille attentive, on essaye de recueillir cette parole et d'en faire quelque chose. Il y a deux personnes dans la structure qui sont mandatées pour pouvoir accueillir ces personnes, recueillir leur discours, voir un peu leur expérience, et puis voir avec elles qu'est-ce qu'elles ont envie de faire de cette expérience. Est-ce qu'elles ont envie d'avoir une réparation ? À quel endroit elles veulent cette réparation ? Est-ce que c'est juste qu'on s'excuse? Est-ce qu'elles veulent une réparation judiciaire? Est-ce qu'elles veulent juste parler? Ça leur suffit de savoir que nous, on va l'écouter et le prendre en compte et essayer de faire des choses. On fait partie également d'une cellule de veille auprès de la métro, donc de la communauté de communes de l'agglomération grenobloise, où on peut faire remonter ces questions-là auprès de juristes qui peuvent nous aider à faire ça. Donc on essaye d'accompagner vraiment les patients et les patientes dans ces questions-là. On essaye également, par l'affichage, on a une commission au sein de la structure, au sein du centre de santé, qui réfléchit à mettre en place des affiches, justement pour pouvoir libérer cette parole-là, parce que cette parole, elle vient des fois spontanément. Mais malheureusement, comme je vous le disais au début, le système de soins n'est pas indemne de racisme. Et donc, il y a des gens qui sont réticents à se dévoiler, j'allais dire, à parler librement de ces sujets-là. Et donc, nous, on essaye de faire en sorte de pouvoir ouvrir la parole et en tout cas montrer aux gens qu'ici, on peut parler de ces choses-là et qu'on va essayer d'en faire quelque chose.
Bonsoir, Oméani. Tu es habitante du quartier. Peux-tu nous dire pour toi qu'est-ce qu'un centre de santé ?
Bonsoir. Un centre de santé, c'est... Il marche, là ? Il fonctionne ?
Ouais, il faut approcher.
C'est un lieu où on est accepté comme on est. Voilà, il n'y a pas de... C'est un endroit où, quand je passe la porte, je ne suis pas gênée. Je me sens écoutée. On ne nous demande pas votre carte vitale, est-ce que vous avez... Là, on rentre, on nous dit bonjour et on nous dit prenez un café. Déjà, il y a très peu d'endroits où je me sens aussi bien, où on peut être différent. Et on est traité pareil, quoi. On est reçu plutôt. C'est un endroit où on n'est pas un client. Je crois qu'avant on disait malade. Après il y a eu patient. Où on est des. Moi j'ai l'impression que je suis un être humain qui est écouté. Et quand on demande sur le plan médical, on dit voilà ce qu'on le ressenti qu'on a, ben on nous écoute, on dit ben on va trouver une solution, et du coup il y a une confiance. Il y a, moi je sais que ça fait plusieurs années que je viens et que j'ai jamais eu autant de, j'ai trouvé une paix. Il y a des petits soucis, on va dire, de santé, hein, comme tout le monde. Mais je suis, j'ai trouvé une dignité que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Mais je me sens épanouie malgré certaines difficultés. C'est un lieu où quand on a, comment dire, dans le parcours, on a... on perd son travail, par exemple, pour des raisons médicales, ou que du coup, socialement, on se retrouve pas seul, mais petit à petit, on se retrouve seul, en fait. Et c'est un lieu où, justement, le côté social, où il y a plusieurs ateliers, plusieurs activités qui nous permettent de pas rester seul, en fait. Voilà, et...
Bah, tout à fait, moi je partage complètement Oméani, hein, parce que du coup toutes les deux on est des patients, des usagères ici au village de santé, et ça me fait écho tout ce que tu dis, parce qu'effectivement je dis souvent que la maison, le village de santé, c'est ma deuxième maison. Donc qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, on trouvera toujours quelqu'un ici dans ce centre pour nous accompagner. Notamment, comme tu as dit, sur tout ce qui est proposé, des différents ateliers qui sont proposés chaque semaine. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement global qu'on a ici, et c'est vraiment une richesse, vraiment. Avant, moi, j'ai été suivie étant jeune dans un centre de santé où on habitait quand j'étais jeune. Donc après, bah, j'ai été suivie par un médecin généraliste. Et quand j'ai su qu'il y avait le projet du village de santé, j'ai tout fait pour venir. Donc je suis venue la première. Et dès que j'ai vu que c'était bien, bon, c'est même mieux que ce que j'ai connu avant. Du coup, j'ai rapatrié toute ma famille. Et elle est grande. Donc, et ce que j'aime ici, ce qu'il n'y avait pas avant, en fait, c'est en fait le côté, comment dire, le côté où en fait nous aussi on est là et on fait. On n'est pas là, on vient et on voit nos médecins. Voilà, on vient, on participe à un atelier. Non, on vient et aussi on participe quelque part. On fait également nous aussi notre propre expérience. J'appellerais ça de l'éducation populaire. Et ça, bah, c'est une denrée rare quand même hein, de nos jours. Donc merci beaucoup et je rejoins complètement tout ce que tu viens de dire.
Merci.
Merci Oméani. Bonsoir Aurélie. Aujourd'hui, bonsoir. Combien compte-t-on de centres de santé en France ?
Alors, on a créé le... Je vais peut-être répondre comme ça. On a créé le réseau des centres de santé communautaires pour fédérer les centres de santé communautaires en France. Actuellement, il y a 9 centres qui sont adhérents. Et en création, je dirais qu'il y a au moins 5 centres de plus, 4 ou 5 centres de plus qui ont ouvert et qui sont créés, plus une dizaine qui sont en cours d'accompagnement à la création, qui ont envie de se monter, qui sont dans des réflexions... pour ouvrir. Donc je dirais qu'en France, à un stade plus ou moins avancé, on est environ à une grosse trentaine de centres de santé communautaires qui s'ouvrent tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain partout en France.
Et du coup, ils sont tous en lien à travers le réseau des centres de santé communautaires.
Alors, en tout cas, nous, on est par le réseau, on est en lien avec... Quasiment presque la trentaine de centres de santé communautaires et on essaye de faire le plaidoyer du modèle de la santé communautaire dans différents espaces pour justement faire connaître notre modèle et puis essayer aussi de rendre visible le réseau pour dire qu'on est là et qu'on est hyper dynamique pour soutenir les projets et les équipes qui veulent monter un centre de santé communautaire.
Eh ben, merci à vous.
Oui, merci à vous.
Merci. Nous allons écouter une dernière chanson, donc « Ma France à moi » de Diams, donc, avec des paroles lourdes de sens. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques minutes.
Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au fun. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle
se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle. Vie à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle, non. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme, elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes, elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer, elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde du l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur, qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Jeanne. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Bonsoir Assia.
Bonsoir.
Donc tu voulais prendre la parole, il nous reste quelques minutes, du coup on a proposé aux habitants s'ils souhaitaient intervenir.
Allô, Seb, c'est Mélanie.
Et du coup voilà, tu avais des choses à nous dire. Rappelle. Sur les transports. Est-ce et sur l'école, donc on t'écoute Assia.
Ça fait des heures, je suis devant ma feuille, il n'y a rien qui sort.
En fait à l'école, je voulais parler des bandeaux que je mets à l'école. En fait le matin j'enlève mon voile et tout et... au début de l'année, j'avais comme un bandeau qui m'arrivait à peu près à là. Et du coup, on me disait, le principal m'a demandé de l'enlever, donc je l'ai enlevé. Mais il y avait une fille dans ma classe qui ne porte pas le voile. Et du coup, à elle, on l'a vue, mais elle avait un bandeau un peu plus long que le mien. Mais on ne lui a pas demandé de l'enlever.
Et du coup, tu as vécu ça comment, Assia ?
Bah, je me sentais mal un peu. Mm.
Effectivement, c'est pas quelque chose de simple. Et du coup, tu dis ça, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc moi, je connais pas mal de jeunes qui sont au lycée. Donc la loi, elle est là, on l'a très bien compris. Mais maintenant, ce qui se passe, beaucoup dans le lycée, en tout cas, enfin dans les lycées, collèges sûrement, c'est qu'on vient effectivement embêter les filles. Les déranger parce que elles ont un petit bandana ou elles ont une jupe qui juge longue ou large. Donc effectivement, je me pose la question si c'est pas un effet pervers de la loi, hein, qui tape du coup les mêmes personnes, ces jeunes filles qui cherchent à s'instruire, à obtenir des bagages pour faire des métiers. Donc, j'entends très bien ce que tu veux dire, Assia. Tu avais autre chose à dire également sur les transports ?
Oui, pour les transports en commun, j'étais dans le tram et une dame a crié dans tout le tram si j'étais pas trop jeune pour mettre le foulard. Et elle avait aussi crié qu'elle a dit même les jeunes ils s'y mettent maintenant dans tout le tram.
Et du coup, il y avait des personnes qui étaient avec toi présentes ?
Oui, mais personne n'a réagi, à peu près.
Du coup, moi, je rebondis. Je trouve ça fou que les personnes aient cette... comment dire ? cette audace de devoir se mêler des affaires des autres et de devoir toujours parler pour les autres. Si, du moment donné où la personne le porte pour son choix, par choix, alors on doit le respecter. On est dans un monde où on est censé cohabiter, vivre ensemble. Et du coup, on ne devrait pas assister à ce genre de scène. C'est hyper violent, surtout que tu es jeune, donc c'est encore plus violent. Et du coup, on t'apporte
tout notre soutien. Merci.
Bonsoir Amir.
Bonsoir.
Du coup, tu voulais nous partager une parole. Nous t'écoutons. Ouais.
Moi, je me présente d'abord. Moi, je m'appelle Amir. Je suis étudiant aujourd'hui en droit en L1 à Grenoble. Et je suis là pour dire quand même que c'est hyper. Ça fait hyper plaisir de voir quand même des débats comme ça, des petites radios et des projets qui sont comme ça, parce que ça fait chaud au cœur, mais c'est triste en même temps. Mais ça fait plaisir de voir que le combat il continue. Parce que ça fait depuis plus de 2004, plus de 20 ans, qu'aujourd'hui, on assimile ces femmes à des choses qui sont complètement horribles. Et c'est hyper violent, comme la petite Asia qui est à côté de moi, qui est même pas encore arrivée dans notre société. Elle a même pas encore commencé ses études supérieures. Et elle subit déjà des discriminations. Et comme en sociologie, on le voit déjà, c'est hyper compliqué de grandir et de se développer avec toutes ces discriminations qui sont présentes. Mais je tiens à rappeler aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que les femmes qui sont à côté de moi font aujourd'hui, c'est un combat féministe. Parce qu'aujourd'hui, on pousse ces femmes à vouloir s'habiller comme elles le veulent. Parce que oui, certes, c'est un choix. Et que c'est pas à des hommes ou des femmes, blancs ou non, de savoir ce que certaines femmes voudraient porter. Et qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ces paroles-là à la radio et sur des podcasts. Et il y a plein de livres. Enfin, je vous tiens à vous renseigner, à partager tout ça, mais parce que c'est hyper important.
Merci, Amir.
Merci à vous.
Du coup, nous arrivons à la fin de cette émission avec Radio Campus, consacrée au film Un racisme à peine voilé. Un grand merci à tous nos invités pour les interventions riches et inspirantes, et à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Merci à Clarly et à Rémi pour votre précieuse aide.
Et enfin, un grand merci au Village de Santé, à l'ensemble de l'équipe, de nous permettre, nous, habitants, usagers, patients, de vivre des expériences enrichissantes, humaines et qui favorisent le lien social et l'épanouissement personnel. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée.